Nous sommes de retour. On discute avec Jean-Sébastien Thériault, qui est le directeur des affaires publiques chez Cannes Aquaculture. C'est un projet d'élevage de saumon qui est du côté de Grande-Rivière. On a déjà parlé de ce dossier-là. On y revient, on fait un suivi et puis ça continue de cheminer. Bonjour, M. Thériault.
Bonjour, M. Richard.
Alors, rappelons un peu en quoi consiste ce projet particulier, faire évidemment de l'élevage de saumon, mais cette fois-ci, ce n'est pas en mer. C'est un processus qui s'installe sur terre.
Exactement. On veut faire du saumon en aquaculture de recirculation, c'est-à-dire qu'au lieu de mettre des cages en mer pour faire grandir le saumon, c'est un complexe terrestre avec une entrée d'eau qui va venir remplir une espèce de grande piscine de 5 millions de litres d'eau. Donc le saumon va toujours être sur terre, dans la piscine, ce qui limite beaucoup l'impact environnemental étant donné que l'eau va être filtrée à l'entrée du site et à la sortie qu'on va renvoyer l'eau dans la mer. L'eau va être filtrée encore une fois, ce qui fait que l'impact environnemental est vraiment très minime comparé à celui de l'élevage en cage.
Bon, quels sont les autres avantages à cette technologie aussi?
Il n'y a aucune possibilité qu'un saumon puisse s'échapper, si on veut, et s'en aller dans la nature. D'autres avantages de notre système, c'est que le système est fait de façon à ce qu'il y ait toujours un courant dans l'espèce de grande piscine, donc dans l'élément central, ce qui fait que le saumon va avoir une chair plus maigre un peu. Il va toujours être forcé de nager un petit peu, donc ce ne sera pas un poisson qui va toujours être stagnant, ce qui va donner un poisson à la chair plus maigre. Et le fait d'être en recirculation aussi nous permet de contrôler tout ce que c'est qui va être apport en nourriture, apport en oxygène, donc un taux de croissance plus rapide. Et finalement, l'autre avantage majeur, c'est qu'étant donné qu'on va contrôler tout ce que c'est qui est intrant dans notre système, on va pouvoir limiter de beaucoup les vaccins et tout ce que c'est qui va être traitement du poisson, étant donné que l'eau va déjà être traitée avant que le poisson soit dedans.
Est-ce que c'est une technologie qui existe déjà ailleurs ou c'est une première en Amérique du Nord?
C'est une première au Canada. C'est une technologie qui existe depuis une dizaine d'années, je vous dirais, en Europe, Danemark, Norvège, Suisse aussi. Il y a aux États-Unis qui a un projet semblable qui est en train de se faire également. Mais au niveau du Canada, c'est le premier projet. C'est une technologie qui a évolué aussi au fil du temps. On n'est pas au même niveau que celle de là, 10 ans, mais le principe est un peu le même.
Bon, et lorsqu'on parle de production?
Le but, c'est de faire un premier site de 1000 tonnes métriques de poissons par année et ensuite de faire deux autres phases subséquentes à cette première phase-là. Donc, on parle d'un projet qui devrait s'échelonner sur au moins 3 ans.
Au niveau des coûts maintenant pour se mettre en place ce projet?
On parle de le premier projet, on parle d'un projet de 16 millions de dollars, étant donné il est un petit peu plus cher, étant donné que le premier volet comporte le volet prise d'eau et le volet émissaire en mer. Ensuite, on parle d'environ 15 millions pour les deux autres phases. Donc, grosso modo, c'est un projet d'environ 45 millions de dollars US. Le par site, on parle de 8 emplois directs. Ensuite, on a tout ce que c'est qu'emploi indirect. Donc, on revient à plus ou moins une quarantaine d'emplois avec les 3C.
Bon, alors qui finance ce projet en ce moment?
Présentement, c'est des investisseurs canadiens. Donc, le projet est majoritairement canadien, mais le financement final est en phase d'être officialisé.
Donc, il n'y a aucun financement gouvernemental dans le dossier?
Le financement gouvernemental, s'il y en a, c'est certain qu'on va faire des demandes qu'on va être rendu à cette phase-là du projet, mais ça va seulement permettre d'accélérer les phases subséquentes. Donc, c'est certain que moins on va avoir à sortir d'argent directement de nos poches et des poches de nos investisseurs pour faire le fonds de roulement, et parce que vous savez bien sûr que le poisson, il va falloir qu'il grandisse. Donc, toute la période où le poisson grandit, il n'y a aucun revenu, c'est seulement des dépenses pour le faire grandir. Donc, plus on va pouvoir aller chercher au niveau de l'aide gouvernementale, plus ça va nous permettre de refaire nos liquidités rapidement pour aller vers la phase 2 et la phase 3 du projet. On travaille déjà au niveau de l'obtention des permis avec le MAPAC et avec le MDDELCC. Donc, j'ai l'impression qu'au niveau de tout ce qui va être prêt et tout ça, on devrait avoir une belle collaboration au niveau gouvernemental également.
Bon, parlons-en des permis. On est rendu là. On est dans ce processus-là. C'est ce qu'il y a de nouveau. On est sur le point d'acquérir les permis.
En fait, les permis ont toujours été le point central du projet. Donc, on ne peut rien faire sans avoir les permis, ça c'est certain. Donc, présentement, on est en phase d'obtention des permis au niveau de l'environnement, donc avec le MDDELCC. Et on travaille étroitement avec le MAPAC là-dessus. Le point le plus critique, si on veut, du projet est au niveau de l'obtention des œufs. Donc, le permis d'obtention des œufs, parce que c'est un dossier autant provincial que fédéral. Donc, ça, c'est le point où on travaille le plus présentement, étant donné qu'il n'y a aucun site de recirculation de cette envergure-là au Canada. C'est tout nouveau. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire, beaucoup de données à aller chercher et envoyer au gouvernement pour faire avancer le dossier là-dessus. On a une très belle collaboration, mais on sait que ça, c'est un chemin de croix, comme on dit. Surtout au niveau des permis, que les enjeux majeurs sont. Donc, là, au niveau de l'environnement, ça avance bien. On suit la feuille de route du MAPAC pour aller chercher le permis. Et ensuite, au niveau des œufs, c'est vraiment là qu'est l'enjeu majeur. L'autre enjeu qu'on a aussi, parce que nous, en réalité, on a trois enjeux vraiment cruciaux dans ce projet-là. Donc, le troisième enjeu vraiment majeur dans tout ça, c'est le terrain. Donc, le terrain où la ville de Grande-Rivière veut installer, en fait, le terrain que la ville de Grande-Rivière a proposé à Canaccoaculture au tout début de notre projet et appartient encore au MAPAC. Donc, c'est un terrain dans le parc industriel Gage-Cavalapertin à Grande-Rivière et on est en processus de transfert avec le MAPAC pour le terrain. Mais tant que ce point-là ne sera pas réglé, mais c'est certain qu'on ne pourra pas commencer à faire un investissement majeur sur un terrain qui ne nous appartient pas encore.
Excellent. Et quand vous parlez de l'environnement, cette question de l'environnement, est-ce que ça a rapport avec les rejets en mer?
Oui.
OK, expliquez-nous.
Principalement, au niveau de l'environnement, c'est surtout au niveau de l'émissaire, donc tout ce qui va être rejet en mer. Et ça, on travaille là-dessus. S'il n'y a pas d'enjeu critique là-dessus, c'est juste que c'est un processus, comme j'expliquais au début, qui est long, mais c'est normal. Il faut que le dossier soit analysé à différents niveaux. Puis là-dessus, on suit la feuille de route que le MAPAC nous a fournie pour éventuellement aller chercher ce permis-là.
Certains pêcheurs semblaient être craintifs par rapport au projet à cause des rejets en mer. Qu'est-ce que vous leur expliquez à ce moment-ci?
Ben, nous, en fait, on a rencontré l'Association des pêcheurs du sud de la Gaspésie. Il y a eu une très belle collaboration lors de cette rencontre-là. On a beaucoup d'idées qui sont sorties de là, beaucoup de solutions éventuelles. Donc, de notre côté, ça avance très bien. On adapte autant la prise d'eau que le rejet que l'émissaire en fait en mer avec les différentes idées qui sont sorties là-dessus. Puis on a une très belle collaboration de cette équipe.
Quels sont les rejets en mer, dans le fond, par rapport à ce que les processus ou les techniques qu'on connaît déjà?
Ben en fait, nous, le système va avoir deux niveaux de filtration majeurs au niveau des rejets. Donc, il va d'abord avoir une filtration mécanique par probablement un filtre à tambour. Là, on est dans le niveau très technique. Donc, pardonnez-moi si je ne suis pas très, très calé non plus. Je ne suis pas chimiste. Mais ensuite, on va avoir une filtration au niveau chimique qui va rééquilibrer tout ce que c'est qui est au niveau du phosphate, au niveau des nitrates, des nitrites, pour justement que l'eau qui va sortir au bout de tout ça ne puisse pas contaminer ou quoi que ce soit. On n'a pas, faut pas oublier non plus que l'eau qu'on va renvoyer en mer, c'est de l'eau dans laquelle vit déjà le saumon. Donc, ça ne sera pas de l'eau toxique ou quoi que ce soit. Là, on n'est pas une usine toxique. Mais c'est pour s'assurer justement de ne pas avoir un impact environnemental important sur la sortie. Surtout qu'on renvoie nos eaux dans le fleuve, qu'un facteur de dilution quasi illimité. Donc, c'est vraiment pour s'assurer de ne pas déranger tout ce que c'est qui est d'animaux déjà autour de la sortie de l'émissaire ou quoi que ce soit. Là.
Bon, vous parlez des œufs, justement. Est-ce que on entend là que vous allez justement rencontrer une entreprise en Islande pour faire un approvisionnement? Parlez-moi un peu de cette nouveauté aussi dans le dossier.
L'Islande est l'un des pays où il y a la production d'œufs de meilleure qualité au niveau du saumon. Donc, c'est certain que c'est l'un de nos approvisionnements privilégiés. Ensuite, pour savoir si ça va être là directement ou si ça va être un autre producteur, ça va dépendre des disponibilités et des permissions au niveau de la CIA et au niveau du MAPAC où on va pouvoir importer des œufs. Pour le moment, c'est surtout des chiffres qui se promènent entre les entreprises de l'Islande, le MAPAC et la CIA pour savoir justement qu'est-ce que c'est qu'il y a comme niveau de biosécurité là-bas et qu'est-ce que c'est qu'on va avoir comme biosécurité à notre niveau ici.
Quel est l'élément important justement par rapport à ça, les œufs, quand vous dites c'est assez réglementé là?
Ben, en fait, nous, de notre côté, on a des conditions assez importantes aussi pour notre site qu'on veut faire à Grande-Rivière. C'est-à-dire qu'on a besoin, pour que notre processus soit optimal, d'avoir des œufs de 3 à 4 fois par année. Donc, ça prend un producteur qui va être capable de délivrer des œufs de 3 à 4 fois par année, ce qui implique d'avoir un cycle artificiel au niveau du saumon pour qu'il puisse pondre ce nombre de fois-là par année. L'autre chose importante, c'est que ça nous prend des œufs de très belle qualité, étant donné que la qualité des œufs va beaucoup, beaucoup influencer le niveau de survie des larves ou des tacons qu'on appelle, c'est-à-dire les petits somonaux. Mais là, présentement, le projet devrait commencer sa construction en printemps 2018 au lieu d'au printemps 2017. Donc, plutôt que forcer la main un peu partout et vouloir être, si on veut, un peu plus à la course, on a décidé de rallonger un peu l'échéancier et se donner plus de marge, autant pour nous que pour l'obtention des permis et tout ça.
Parlons d'entente. Évidemment, ça vous prend des ententes aussi pour transformer ce saumon, parce que là, on a des marchés visés. Donc, au niveau de la transformation, qu'est-ce qu'on fait avec le saumon pour l'exporter ensuite?
À la sortie du site de Canaquaculture, on vise à avoir un saumon HOG qui appelle, donc head-on gutted, ce qui veut dire en français la tête est encore sur le poisson, mais seulement éviscérée. Ensuite, dépendamment des marchés, c'est là qu'on va pouvoir décider qu'est-ce que c'est qu'on fait avec le saumon. Notre but est de le faire transformer le plus près possible du site de Canaquaculture à Grande-Rivière. Mais chaque marché a sa spécificité. Donc, le marché de New York ne demandera pas le même filetage, si on veut, que le marché de Tokyo, de Shanghai ou d'autres marchés américains comme celui de Boston. Ce qui fait que les ententes de commercialisation finale, donc qui va acheter notre production annuelle, va en décider beaucoup quel genre de transformation on va avoir à faire avant d'envoyer le poisson.
Dernier point, à quel moment vous attendez d'obtenir les permis?
Normalement, on s'attend d'avoir les permis d'ici l'automne pour permettre d'avoir un début de chantier au printemps 2018, comme vous disiez. Donc, on se donne au moins 6 mois pour aller en appel d'offres et tout ce que c'est qui va avec un début de chantier. Donc, normalement, d'ici l'automne, on pense être en mesure d'avoir tous nos permis pour pouvoir commencer.
Puis une production en 2019?
Exactement. La première cohorte devrait sortir fin 2019, début 2020 peut-être plus, maintenant qu'on a tassé un peu les chantiers.
2020, OK. Jean-Sébastien Thériault, directeur des affaires publiques de Canaquaculture, merci.
Merci à vous, bonne journée.